Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Ravi de partager une nouvelle semaine avec vous. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Alors on fait le tour de la question, vous le savez, au quotidien avec des sujets dans l'actualité, des sujets dans l'air du temps qui vous font réagir. Et un sondage à la une ce week-end à 7 mois des élections européennes. Les intentions de vote à touche-touche entre La République En Marche et le Rassemblement National. Entre 19 et 21% des votants choisiraient l'un ou l'autre des partis. Le pro et l'anti-européen, est-ce le schéma que l'on retrouvera dans les urnes? Le gouvernement a-t-il raison de diffuser un clip choc pour encourager à voter contre les extrêmes et le danger nationaliste? Eh bien, vous réagissez avec nos invités spécialistes de ces questions européennes, spécialistes des questions de citoyenneté également, entre autres Yves Bertoncini et Olivier Duhamel. Et puis à 10h, on va glisser doucement dans le monde rouge velours de Sacha Guitry, Julie. Un artiste prolifique, acteur de talent, scénariste, metteur en scène, écrivain. Dans ses pièces et dans ses films, tant d'objets le racontent, c'est l'un des partis pris du livre passionnant de Christophe Barbier, notre invité de la politique au théâtre. Les appels des auditeurs sont attendus dès maintenant au standard sur l'Europe, Julie.
Oui, qui est ouvert, bien sûr, le 39-21, 50 centimes la minute. Vous avez également le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
C'est parti jusqu'à 11h.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec cette réalité européenne, illustrée peut-être par le sondage du week-end, Yves Bertoncini est avec nous, spécialiste des questions européennes, président du mouvement Européen France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et Olivier Duhamel, que vous connaissez bien sur l'antenne d'Europe 1 avec Mediapolis, entre 10h et 11h chaque samedi. Bonjour Olivier.
Bonjour Wendy.
Politologue, ancien député européen, l'Europe vous la connaissez par cœur et vous avez évidemment vu, Olivier, cette enquête IFOP d'hier. On est à 7 mois des élections européennes, ce sera donc le 26 mai en France. La République En Marche, le Rassemblement National font la course en tête. Le parti de la majorité présidentielle est crédité d'environ 20% des intentions de vote, tout comme le parti dirigé par Marine Le Pen. C'est un sondage qui est conforme au climat politique français. C'est bien ce qu'il faut dire aujourd'hui, Olivier.
Ce qui est conforme au climat politique français avant-hier, avant-avant-hier, hier, aujourd'hui et demain, c'est de très peu percevoir l'enjeu européen des élections européennes et de ne se passionner principalement pour savoir si c'est Tartemolle ou Tartempion qui arrivera premier ou qui arrivera second. D'abord, si loin du scrutin, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire peut-être que la poussée vers le Rassemblement National est loin d'être éteinte et qu'il n'a pas suffi d'un mauvais débat pour changer le cours des choses. Point final. Pour le reste, on verra ce que ça donne. Ce que j'espère aussi, c'est qu'on regardera quand même un tout petit peu ce qui se passe. Je ne parle pas de ici maintenant, je parle de dans les semaines à venir et le soir de l'élection, un peu ce qui se passe à l'échelle européenne, parce que ce sont les élections européennes les plus importantes de l'histoire de l'Europe. Et je rappelle que les élections européennes au suffrage universel, les premières étaient en 1979, donc il y a 50 ans, j'ai toujours été nul en arithmétique, en calcul mental, 40 ans. Mais ce sont les premières parce que jamais les enjeux politiques n'auront été aussi lourds au niveau européen. Donc ça mérite que pour une fois, on ne regarde pas ça que d'un œil franco-franco-franchou-français.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison de le souligner. De toute façon, d'ici à 10h, nous aurons le temps d'aborder ces sujets essentiels, alors que 73 députés britanniques quitteront ce Parlement européen. C'est la conséquence du Brexit. Voilà pourquoi nous gagnons, nous, 5 députés à élire, Yves Bertoncini. Il y avait quand même, pour revenir sur le sondage d'aujourd'hui, même si on va le distancer, une promesse d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Aujourd'hui, être à touche-touche avec le parti du Rassemblement National prouve que pour l'instant, cette philosophie ne provoque pas une adhésion spectaculaire.
Oui, mais comme vient de le dire Olivier Duhamel, ses intentions de vote, semble-t-il, et sans doute portent sur des aspirations, des enjeux domestiques. Au fond, malheureusement, je dirais que ces élections vont aussi être des élections intermédiaires, on dirait mid-term en mauvais français, pour évoquer ce qui va se passer aux États-Unis. Elles vont d'autant plus l'être que Emmanuel Macron a choisi de rétablir le scrutin national et que donc beaucoup de nos concitoyens vont se saisir de leur bureau de vote pour lui adresser un signal à lui. d'abord sur les sujets nationaux et aussi sur les sujets européens. Donc en effet, il faut
ce que fait Jean-Luc Mélenchon, un référendum anti-Macron.
D'ores et déjà, lui, il l'assume. Et donc c'est vrai que ça pervertit les enjeux de ce scrutin, même si ça a toujours été des motivations mixtes. Bien sûr qu'on vote aussi sur le national et un peu sur l'européen. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, il se trouve que le président Macron a affiché une ambition européenne pendant sa campagne. Alors il a quand même bénéficié, y compris dans son débat de l'entre-deux-tours, d'une réalité politique de fond, qui est que nos compatriotes ne sont pas europhobes. Hein, vous avez évoqué le Brexit. Les Français sont eurosceptiques pour beaucoup d'entre eux. Ils n'aiment pas cette Europe, ils voudraient la changer. Simplement, ils ne veulent pas la quitter du tout. Donc il y a ce socle-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, il insiste à nouveau sur cette opposition entre ce que lui incarne, c'est-à-dire l'ambition européenne, et puis les nationalistes qui voudraient, dit-il, détricoter l'Europe. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a le grand marais des eurosceptiques. Il y a des europhiles, évidemment, en France, il y en a au mouvement européen en particulier. Et puis au milieu de tout ça, il y a l'ambition qu'il avait affichée, cette vision, ces discours, et qui pour l'instant, et il n'a pas de chance, vu ce qui se passe en Allemagne, en Italie, a peiné à entraîner des décisions significatives. Oui. Donc, bien sûr que d'ici là, et puis ça va être l'un des enjeux de ces élections, il va falloir qu'il passe, je dirais, la seconde.
Il reste 7 mois pour convaincre Emmanuel Macron, un peu seul en Europe pour l'instant, qui a lancé sa campagne pour les européennes il y a quelques jours au cœur du groupe de Visegrad. Avec ce clip polémique, je vais vous faire réagir là-dessus, messieurs aussi, enfin clip diffusé en tout cas par le gouvernement. On vous parle de ces enjeux dans un instant. Il appelle les citoyens à voter, ça très clairement, en affichant l'Italien Matteo Salvini et le Hongrois Viktor Orban comme repoussoir. Qu'en pensent nos invités? Qu'en pensez-vous? On fait le tour de la question sur ces élections européennes dans notre champ d'horizon, Julie.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
À 7 mois des élections européennes et nous avons déjà un sondage sur les intentions de vote et un clip polémique du gouvernement qui encourage à voter en affichant l'Italien Salvini et le Hongrois Viktor Orban comme repoussoir.
Oui, ce qui nous permet de voir comment les grands partis en France notamment se préparent aux européennes, c'est dans 7 mois maintenant. Nous en parlons avec Yves Bertoncini, spécialiste des questions européennes, ancien directeur de l'Institut Jacques Delors. Olivier Duhamel est avec nous, politologue, ancien député européen et aux commandes de l'émission passionnante Mediapolis. C'est à suivre sur Europe 1 le samedi entre 10h et 11h. Avant de parler de ce petit clip, juste parce que ce que vous évoquez, messieurs, était très intéressant, est-ce que ce sentiment français de toujours associer les élections européennes aux enjeux domestiques est très français, ou on l'observe, Olivier Duhamel, dans les autres pays européens?
Non, je pense qu'on l'observe aussi dans les autres pays. Ce qui est peut-être un peu plus accentué chez nous, c'est l'histoire référendum anti-président. Qui est d'ailleurs totalement absurde, hein, parce que quel que soit le résultat des élections européennes, si mauvais puisse-t-il être pour le parti au pouvoir, en général il n'est pas bon pour le parti au pouvoir, oui. Ça n'a pas de conséquence. Ça n'a pas de conséquence. Je demande à quelqu'un de me citer une élection européenne qui a une conséquence grave pour le pouvoir politique en place. Alors personne ne pourrait, croit-on par ignorance historique, pas du tout. Même ceux qui connaissent l'histoire ne pourraient pas, parce que
donc c'est pas un levier
ça n'en
tout.
A pas. Ça permet pendant 15 jours de dire ah là là, quel désaveu de Macron, point barre. Ça n'a pas plus d'effet qu'un sondage.
Et il y a quand même une particularité française aussi sur
les motivations mixtes existent partout. C'est vrai qu'après tout, l'Europe n'a pas tous les pouvoirs, hein, contrairement à ce qu'on dit. Donc c'est vrai que les Français pensent que c'est aussi un message qu'ils doivent adresser à leurs propres dirigeants sur des sujets nationaux. Mais en France, nous n'avons un président de la République tout puissant, celui-ci comme les précédents, qui ne rend pas de compte en fait. Hein. Il ne va pas au Parlement comme Angela Merkel le fait chaque semaine. C'est l'un des seuls membres du Conseil européen qui a des pouvoirs importants sans rendre de compte. De sorte que la première occasion venue pour se saisir d'un bulletin de vote et pour lui adresser un message, eh bien, ça va être les élections européennes. Donc, effectivement, ça accentue un peu cette dimension plébiscitaire, référendaire, pour ou contre le pouvoir en place.
Alors, on est à 7 mois de ces élections et il y a ce clip dont vous parlez, Julie, il y a un instant. C'est un petit clip qui dure 30 secondes. Alors, avec des thèmes forts, c'est pour les réseaux sociaux. Climat, agir ou ignorer. Emploi, partenaire ou concurrent. Europe, union ou division, point d'interrogation à chaque fois. En mai 2019, l'Europe changera, à vous de décider dans quel sens. Et on a en effet ces images en toile de fond de l'Italien Matteo Salvini haranguant les foules, le ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil, de ce Premier ministre hongrois Viktor Orban, un petit peu mis dans ce clip comme des épouvantails, Olivier Duhamel. Il y a eu pas mal de réactions à gauche comme à droite à ce clip-là. Votre sentiment, vous, aussi comme spécialiste de ces questions européennes, est-ce que c'est contre-productif ou incitatif?
D'abord, c'est probablement un bon clip pour En Marche. Le problème, c'est que ce n'est pas un clip d'En Marche. C'est un clip du gouvernement. Ce qui pose quand même... je sais pas, moi, imaginez juste des clips équivalents faits par les présidents d'avant. La plupart des gens auraient hurlé, on confond incitation à voter et clip de propagande politique. Oui. Bah, si on le disait de ceux d'avant, s'ils avaient fait ça qu'ils n'ont pas fait, il faut le dire du pouvoir actuel. Donc c'est assez choquant.
Les Républicains, notamment par la voix de sa porte-parole, Yves Bertoncini, disent que le gouvernement ainsi, alors il y a les argumentaires d'Olivier Duhamel, mais aussi contribue à attiser les peurs, au contraire, sur l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il manque un sujet, puisque vous parlez des peurs dans ce clip, c'est un sujet de fond, c'est la sécurité.
Oui.
Je pense que c'est un des grands enjeux, la sécurité. Il y a quand même des attentats terroristes, Poutine, les Européens sont en grande insécurité. Donc, il aurait fallu déjà ajouter ce thème. Pour le reste, oui, le fait d'instrumentaliser des opposants politiques, Viktor Orban, bon, passe encore, mais alors Matteo Salvini, enfin, tout le monde lui donne une importance incroyable. Il est, je rappelle, vice-premier ministre en Italie. Il n'est pas premier ministre, il n'est pas président du Conseil. Il a fait 17% aux élections. Il est partenaire junior. Ça, c'est effectivement une dimension politicienne.
Il est devenu l'homme politique
bien
dominant.
Sûr,
sa popularité est montée au-delà de 50%.
Mais c'est lui donner beaucoup d'importance, premièrement, alors qu'il n'a pas cette importance institutionnelle. Et deuxièmement, oui, en effet, c'est s'inscrire dans un registre partisan. Et ça ne s'imposait pas, pour dire les choses de manière un peu neutre, dans un clip gouvernemental. Ça, c'est le travail des partis politiques.
Il y a deux aspects quand même dans ce que nous demande Wendy Bouchard. Est-ce que c'est approprié d'un clip du gouvernement? Et la réponse quand même la plus honnête et de bonne foi me semble être non. Et par ailleurs, dans un clip En Marche, donc au-delà, dans la campagne, et donc au-delà, quand Macron décide d'absolument mettre comme clivage dominant les progressistes contre les nationalistes, et de l'incarner, moi Macron contre Salvini, moi Macron contre Orban. Là, il y a des gens qui disent, c'est folie pure, soit ça n'a pas beaucoup de sens, thèse de Jean-Louis Bourlange, qui pourtant est proche de la majorité actuelle, même député élu de la majorité actuelle, ou d'autres qui disent, les Républicains, c'est très dangereux, ça attise le feu. Et puis en face, il y a des gens, l'autre point de vue qui se défend aussi, c'est une vraie question, qui est de dire, jamais il y a eu en Europe une telle poussée populiste, xénophobe, nationaliste dure, assez anti-européenne, et là, à des élections européennes, oui, c'est l'enjeu principal de savoir si les Salvini, les Orban, l'Autrichien, etc. vont avoir une Le Pen et autres chez nous vont avoir une forte poussée et jusqu'où, ou s'il faut au contraire s'efforcer de la contenir. C'est une vraie question
au
politique.
Moins, ça a le mérite de faire réagir ce clip. Hein, ça ne vous laisse pas du tout indifférent, messieurs, ni un certain nombre de politiques. Donc
d'abord,
c'est peut-être réussi.
C'est très positif que le gouvernement fasse des campagnes de sensibilisation la plus grande partie de nos compatriotes puisse aller voter le 26 mai prochain, bien sûr. Comme je l'ai dit, il y a des thèmes intéressants. Il en manque un, celui de la sécurité au sens large, sécurité collective. Maintenant, distinguons l'institutionnel du partisan. Moi, je crois que c'est légitime. Le gouvernement doit appeler au vote, à se mobiliser. Il peut le faire sans forcément cibler des adversaires politiques qu'il auto-institue comme adversaires principaux.
De l'autre des côtés, d'ailleurs.
Oui, mais ça les arrange les uns les autres. Oui. Mais rappelons quand même une chose, je vais vous donner peut-être un scoop. L'extrême droite ne gagnera pas les élections européennes. L'extrême droite n'aura pas la majorité des sièges au Parlement européen. Bien sûr qu'en France, elle peut arriver en tête. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé la dernière fois.
Pas au niveau européen.
Et en plus, et j'ajoute, elle n'est pas un bloc, l'extrême droite. C'est-à-dire que la dernière fois, le Front National est arrivé en tête, le Parti du Peuple danois aussi, mais ils n'ont pas siégé ensemble, puisque le Parti du Peuple danois a dit que le Front National était trop antisémite. Et puis il y avait aussi M. Farage qui est arrivé en tête, et il n'a pas siégé non plus avec les autres. Ils se sont divisés, il n'y a pas d'international des nationalistes. Non, je ne dis pas que tout va bien, et notamment dans notre pays, quand on voit des sondages avec le Rassemblement National qui va arriver en tête, tout ne va pas bien du tout, du tout, du tout. Mais de là à penser que l'extrême droite va gagner les élections, non, et je précise mon propos.
C'est pas la même chose, mais sans les gagner, s'ils passent à 150 ou 200, c'est quand même, ça a beaucoup d'effets et d'importance.
Mais laissez-moi préciser le fond de ma pensée. Le vrai sujet, ce n'est pas que l'extrême droite gagne une élection. Le vrai sujet, c'est que la poussée de l'extrême droite pousse les partis de gouvernement à reprendre ces thématiques. Et c'est ça le vrai risque. C'est-à-dire qu'on l'a d'ailleurs vu au Royaume-Uni. Monsieur Farage n'a jamais gagné une élection au Royaume-Uni, mais Monsieur Cameron a repris ses thématiques. Et c'est la même chose sur l'immigration et sur tout le reste.
J'imagine, Yves Versoncini, comme Olivier Duhamel, que la comparaison d'Emmanuel Macron, qui compare l'Europe de 2018 à celle des années 30, entre montée des populismes et des nationalistes, ne manquera pas de vous faire réagir non plus. Je vous donne la parole.
Ce ne sont pas les années 30, excusez-moi. Oui, ce ne sont pas les années 30, c'est une erreur de titre de l'AFP. Ah. Ce sont les années 20. Si on regarde le texte exact, ce sont les années 20 et tout le monde est parti sur les années 30, alors que dans le texte, c'est même assez fascinant. Ça prouve qu'on regarde tous le texte de l'AFP et puis après les commentaires du texte et pas le texte lui-même du président.
Merci de cette précision. On va commenter le vrai texte que vous avez lu bien dans le détail, Olivier Duhamel, juste après la pause sur Europe 1 pour le tour de la question.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Comment les grands partis en France se préparent aux européennes? On en parle avec Yves Bertoncini, qui est spécialiste des questions européennes, ancien directeur de l'Institut Jacques Delors, et Olivier Duhamel, politologue, qu'on retrouve chaque samedi sur Europe 1 le matin entre 10h et 11h pour Mediapolis.
Avec les propos d'Emmanuel Macron à la une, notamment sur la lèpre nationaliste qu'il montre du doigt et qui pourrait démembrer l'Europe. Alors merci Olivier Duhamel d'avoir précisé, puisque nous faisons référence à l'Europe des années 30. Il précise dans le détail les choses, Emmanuel Macron, et vous le recitez sur votre compte Twitter. Merci d'ailleurs. On voit presque se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-première guerre à la crise de 1929. Donc on est plus dans les années 20 que dans les années 30. Est-ce que ça change capitalement les choses, Olivier ?
Disons, ça change un peu, parce que ça veut dire, pour ceux qui veulent interpréter cette phrase comme des métaphores peut-être exagérées, ça veut dire que il compare pas Orban à Hitler, il compare Salvini à Mussolini, ce qui est pas exactement du même ordre. Ça veut dire aussi que c'est une mise en garde sur un climat et une montée de forces politiques dangereuses et d'idées autoritaires. Donc il y a des éléments de vérité dans ce rapprochement, et les éléments de vérité sont peut-être plus forts avec les années 20 qu'avec les années 30, parce que tout n'est pas joué, heureusement.
Oui, sauf que c'est vrai que vous avez entendu les historiens dire attention, à cette époque-là, on avait des ambitions de ces côtés expansionnistes, à la fois de l'Italie et de l'Allemagne, alors que là, il y a plus un repli sur les souverainetés manifestes, Yves Bertoncini. Hein.
Oui, avec ce qui a fait basculer l'analyse vers les années 30, c'est que le président nous parle de juste avant la crise de 29. Or, nous savons bien que notre crise de 29, on l'a eue, puisque ça fait 10 ans qu'on l'a eue. Donc, c'est vrai que c'est pas comme si on était que dans les années 20.
18, oui.
Il y a eu une crise économique financière catastrophique avec des effets économiques, sociaux et politiques, évidemment. Alors, la grande différence, moi je vais insister là-dessus, c'est que la construction européenne est là désormais. On a tiré les leçons de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc toutes les oppositions n'ont évidemment pas disparu, simplement, on le voit bien, Orban, Salvini et d'autres, simplement elles s'expriment dans un cadre civilisé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut s'insulter, on peut être en désaccord, mais à un moment donné on se retrouve à Bruxelles, à Strasbourg et ailleurs pour en discuter. Il n'y a plus cette même problématique, j'allais dire, d'expansionnisme territoriaux qui existe encore hein, ailleurs. Regardez l'Ukraine, la Crimée,
etc. Sur le territorial, vous avez raison, mais en même temps, il y a quand même une violence beaucoup plus grande, et dans les discours et dans la société, il y a une hystérisation parfois des oppositions. Qui aurait imaginé, c'est pas l'Europe, c'est les États-Unis, mais après tout, qui aurait imaginé il y a 5 ans, ou il y a 1 an, ou il y a 1 mois, ou il y a une semaine, qu'un président des États-Unis dise, si des migrants arrivent à notre frontière et nous jette des pierres, on leur tirera dessus. Personne n'aurait imaginé ça. Et pourtant, il le dit. Donc, vous savez, évidemment que ce ne sera pas la même chose. Évidemment qu'il n'y a pas de risque de guerre intra-européenne, et que c'est un immense progrès de l'Europe, et que c'est bien parce que les nouvelles générations, pour eux, ça ne veut rien dire, c'est une abstraction, c'est un acquis qu'ils ne s'en rendent pas compte. Tous ceux qui, comme moi, sont nés à fin de la guerre plus 5, savent ce que ça veut dire.
Bien sûr.
Quand on est à fin de la guerre plus 20, plus 25, tout ça est dans les limbes. Mais il peut y avoir d'autres formes de violence et de dislocation.
Mais là, je suis entièrement d'accord. Je pense que 20-30, c'était d'abord une crise économique financière sans protection sociale. Hein, il y avait aussi ça, hein, parce que la crise a été un peu moins dure grâce au fait que maintenant, on a des systèmes de protection sociale. On a eu la construction européenne qui permet quand même de contenir l'expression des violences. Mais aujourd'hui, je crois que Il faut pas regarder vers le passé, je crois que c'est même plus inquiétant. Les Européens et les Occidentaux au sens large sont inquiets. Mais parce moi, que les années 30, on était encore au centre du monde, on ne l'est plus.
Moi, j'aurais fait réagir là les gens du moment qui nous écoutent. Thibaut de Rouen qui nous écrit sur Facebook, ce n'est pas en allant insulter la moitié des pays européens qu'on va réussir à refonder l'Europe. Ça fait partie des contradictions aussi du discours d'Emmanuel Macron.
Ça, c'est le paradoxe. Je crois qu'il faut être prudent, en effet, et prendre en considération que nous tous Européens et nous Occidentaux, nous sommes aujourd'hui inquiets. Une fois, au début du siècle, nous étions le centre du monde. Nous ne le sommes plus et au fond, confusément, ça nous angoisse. Nous le sommes de moins en moins économiquement. Il y a la mondialisation. Il y a aussi évidemment les différentiels démographiques. Nous nous sommes affaissés démographiquement, donc des poussées migratoires qui nous inquiètent. Tout ça, il faut le comprendre pour pouvoir en parler sans nous référer forcément aux années 20 ou aux années 30. Moins d'histoire, plus de géographie. Ce qui inquiète les Européens, je crois, les Occidentaux, c'est qu'ils rétrécissent dans un monde où les autres se développent, sont en expansion et pas nous. Donc ça, il faut le prendre au sérieux et avec des propos les plus, j'allais dire, cordiaux possibles.
Olivier, on la pose.
Pas insulter peut-être, mais moi, ça me réjouit que on ne se contente pas d'avoir des exigences budgétaires et économiques. Parce que, alors là, quand on a un budget en excès, en déficit aggravé, on dit il faut corriger tout ça, et c'est fainéant, et ces gens incapables de faire des réformes, et ces pays du Sud, etc. Bon, ça, alors, et puis personne dit, ou très peu, mais pourquoi il s'est contraint. Mais en revanche, pour une fois, on commence à refuser que on bafoue la liberté de la presse en Hongrie, que on bafoue l'indépendance de la justice en Pologne, que on bafoue l'indépendance des professeurs d'université en Hongrie, que etc etc. Or l'Europe, ça n'est pas seulement de la rigueur économique minimale.
Sûr, on remet les valeurs
l'Europe,
fondamentales.
Ce sont des valeurs fondamentales, oui. Et que donc on dise attention, il y a quand même une ligne rouge au-delà de laquelle ça n'a plus de sens. Vous ne respecteriez pas l'Europe. Il faudrait sanctionner. Et au bout de l'histoire, si ça continue à partir. Bah moi, ça me fait plaisir parce que c'est ça l'Europe aussi.
Et les auditeurs vous rejoignent dans un instant. Frédéric qui nous appelle à l'instant de Charente-Maritime, Mathieu de Paris. Quelle perspective pour vous les élections européennes? Dans quel sens, avec quelle conviction irez-vous voter au mois de mai en France pour élire ce nouveau Parlement? Eh bien, on fait le tour de la question jusqu'à 10h ce matin, alors qu'un dernier sondage et qu'un clip font polémique en la matière. À tout de suite.
Nous reprenons notre débat jusqu'à 10h. Faut-il craindre une montée populiste en France lors des européennes en mai prochain?
Avec de nombreux paradoxes, à commencer par celui-ci, les Européens sont europhiles. 62% des Européens pensent que l'appartenance de leur pays à l'Union Européenne est une bonne chose et que 68% pensent que leur pays a bénéficié justement de ce projet avec des valeurs fondamentales que nous rappelait Olivier Duhamel liées à l'Europe. Yves Bertoncini, spécialiste des questions européennes, président du mouvement Européen France, est avec nous. Olivier Duhamel également pour décrypter ces élections à horizon de 7 mois. On vote le 26 mai en France pour renouveler le Parlement. Frédéric, Mathieu, Philippe, Jeff, beaucoup de réactions au standard. Je vais vous donner la parole, chers amis. Frédéric, bonjour madame.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous souhaitiez réagir. Alors je ne sais pas si vous avez vu le clip en question, mais réagir en tout cas à la tenue de nos propos aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je vous remercie de me prendre d'ailleurs. Donc voilà. Alors, je ne l'ai pas vu effectivement. Alors, par contre, par rapport à ce que j'entends, moi, je pense que c'est peut-être plutôt maladroit. Je suis pas tellement pour les polémiques, mais par contre, je me demande si on n'a pas oui tout intérêt à. Enfin, en tout cas, si le président n'a pas tout intérêt à rassembler les Français, puisque des partis comme M. Mélenchon demandent déjà un vote contestataire. Moi, je rappelle que on n'a pas eu de constitution européenne. Parce que M. Fabius s'était mobilisé contre un non. Et après, par contre, il a été président. Il a été ministre des
Affaires étrangères.
Oui, voilà. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Et alors, par contre aussi.
Sur votre vision de l'Europe, souvent, Frédéric, oui.
Alors, souvent, ce qu'on nous montre, c'est le côté mauvais. Moi, je sais que je vivais à l'étranger, je vivais en Angleterre, je regardais TV5 Monde et il y avait des émissions très intelligentes comme le Bistrot de l'Europe. Et franchement, on nous montrait vraiment une autre face de l'Europe qui était très positive. Et je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas ce genre d'émission, sur votre antenne notamment, mais sur les télés aussi.
Vous avez l'impression qu'on agite un petit peu les peurs là, dont on parlait il y a un instant et qu'on ne met pas en avant l'esprit constructif de l'Europe.
J'avoue que j'aimerais beaucoup que M. Aliagas pose des questions demain au président par rapport à sa vision européenne et ce qu'il veut vraiment faire. Parce que tout ça, c'est très flou. On parle des polémiques, mais pas de ce qu'on veut faire, vraiment.
Philippe, dernière chose,
j'étais en Angleterre ce week-end et j'ai été très, très surprise de voir qu'il y allait y avoir une émission la semaine prochaine, alors si j'ai bien compris, concernant éventuellement une marche arrière de l'Angleterre par rapport au Brexit. Bref, tout ça, c'est très flou.
Oui, c'est intéressant parce que voilà, Frédéric est en quête aussi de valeurs. Alors, on aurait pu penser que le programme d'Emmanuel Macron, que sa philosophie liée à l'Europe, Yves Bertoncini pourrait rassurer cette auditrice. C'est pas le cas, manifestement. Elle nous appelle de Lignol-sur-Mer, en Charente-Maritime.
Emmanuel Macron, c'est un architecte de l'Europe. Il a une vision, il l'a développée pendant sa campagne. Il a fait de grands discours, notamment celui de la Sorbonne. Je pense qu'il est audible quand il parle du monde. En fait, il faut parler du monde. Pour donner la dimension européenne, il a dit, il nous faut une souveraineté, oui, mais pour prendre le contrôle de la situation, ce que nos citoyens souhaitent, c'est en étant au niveau européen qu'on peut le faire, parce que l'union fait la force. Il a dit, il faut parler d'identité, oui.
Oui, mais là, il n'a plus beaucoup d'alliés
européenne. Alors voilà, simplement, c'est un architecte qui maintenant est confronté à des crises successives, et y compris des crises politiques. Il a dû remettre sa casquette ou son casque de pompier, si je puis dire. Il voulait être un architecte, il est un pompier. Mais les élections européennes lui permettront de reprendre son bâton de pèlerin et d'essayer d'avoir aussi au Parlement, ce qu'il n'a pas aujourd'hui, des relais politiques et parlementaires un peu plus puissants. Et c'est ça qu'il faudra aussi mesurer. Pas seulement le fait que les nationalistes qui sont déjà là pourraient progresser encore un peu, c'est possible, oui, c'est probable même, malheureusement, mais comment lui et puis ses alliés parlementaires vont consolider leur position sur un agenda plus ambitieux qui regarde le monde. Moi, je crois que c'est ça la clé de l'élection.
Qui sont les alliés d'Emmanuel Macron aujourd'hui?
Les pères les uns après les autres. C'est d'ailleurs extraordinaire de voir que le discours de la Sorbonne, qui est un grand discours européen, a été fait deux jours après les élections allemandes d'effondrement du SPD et de la CDU, c'est-à-dire de commencement de la perte de l'allié allemand. Le fond du problème est là, c'est que nous avons absolument de plus en plus besoin de gouvernance européenne. Et il y a de moins en moins de gouvernance européenne. On a de plus en plus besoin de gouvernance européenne. C'est une évidence face à la question, pas à la crise, mais à la question migratoire. Il peut y avoir qu'une solution européenne dans le traitement des migrations. Oui. C'est évident à partir du moment où il y a un retrait américain et une montée en puissance de la Russie pour exister et être protégé. Le continent européen a besoin d'être plus fort. C'est évident quand il s'agit de réguler les GAFA. On ne fera pas des régulations efficaces au niveau national. Il faut qu'elles soient au niveau européen. C'est évident par rapport à l'évasion fiscale, où vous voyez bien même les médias sont européens maintenant quand ils font des leaks, parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Donc les médias arrivent à se mettre ensemble pour faire des Panama Leaks et autres, et pas les gouvernements. Et enfin, c'est évident aussi pour les grands enjeux de l'intelligence artificielle, développer des industries européennes de pointe, etc. Et à côté de ça, jamais l'Europe n'a été aussi faible dans sa gouvernance, parce que jamais elle a été à ce point-là divisée. Et non seulement divisé, mais finalement tout le monde ravi de cette division, en tout cas beaucoup ravi de cette division, et en rajoutant sur la division. Parce que l'euroscepticisme est plus fort qu'il était il y a 10 ou 20 ans. Et donc c'est ce décalage-là qui fait problème. Parce que les partis européens sont de plus en plus divisés. Regardez le PPE, le grand parti européen fondé par les démocrates chrétiens et très pro-européen. Il se tiraille, est-ce qu'on va garder Orban, est-ce qu'on va pas garder Orban? Ils votent pour ouvrir des sanctions contre la Hongrie, mais pour quand même garder Orban. Tout le monde est divisé, ils sont affaiblis. Il y aura plus de majorité. La grande majorité PPE sociodémocrate qui gouverne l'Europe au Parlement depuis que le Parlement est élu au suffrage universel, elle va disparaître.
Il pourrait y avoir des coalitions. On en reparle après la pause, mais en tout cas, c'est pour ça que vous dites l'un et l'autre que c'est un scrutin capital qui arrive, l'élection la plus importante pour de votre point de vue.
Absolument.
Olivier Duhamel, Yves Bertoncini, Philippe, Mathieu et Jeff veulent la parole également, je la donnerai. Ils nous appellent au Standard Europe 1. Julie, on vous écoute.
À tout de suite avec Wendy Bouchard.
Europe 1.
Wendy Bouchard et ses invités jusqu'à 10h. Nous recevons ce matin Olivier Duhamel, politologue, ancien député européen. On le retrouve chaque samedi pour son émission Mediapolis entre 10h et 11h sur Europe 1. Et Yves Bertoncini, qui est spécialiste des questions européennes, président du mouvement Européen France, qui s'engage en faveur de la construction européenne dans une perspective fédérale.
Et on parle de ce scrutin capital le 26 mai prochain, 79 sièges à pourvoir pour la France, 5 de plus qu'en 2014, une physionomie du Parlement européen qui risquera d'être totalement chamboulée. élevé. Emmanuel Macron pourra-t-il incarner cette Europe plus souveraine, multilatérale, réconciliée comme il le souhaite? Je ne sais pas si vous en doutez, Philippe, mais j'ai le sentiment que, en tout cas, vous êtes un peu circonspect, vous qui nous appelez de Dijon. Bonjour à vous.
Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Oui, je suis assez circonspect sur la stratégie du président Macron. Le spot, pour faire assez rapidement le spot, je trouve que le spot aurait dû plutôt insister sur le fait qu'il faut voter en disant « inscrivez-vous sur les listes électorales comme on le fait pour les échéances présidentielles ».
Bon, alors, ce qu'il dit, le spot conclut en disant « 2019, l'Europe changera, à vous de décider dans quel sens et à voter hein, ». Parce que c'est l'objectif aussi, c'est de lutter, Olivier Duhamel, contre les taux d'abstention qui, pour ces élections européennes, sont absolument colossaux. Hein. À chaque fois, on est aux alentours de 40-50%.
C'est une abstention logique. Quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis ou en Suisse, c'est aussi des modèles un peu fédéraux.
Oui.
Comme tous les pouvoirs ne sont pas à Washington ou à Berne, tous les pouvoirs ne sont pas à Bruxelles, eh bien, il y a une participation à moitié à peu près.
Mécanique.
Malheureusement, elle est trop basse. On est vers 40-42% en France. Il faudrait qu'elle soit plus haute. Mais ça ne va pas être à 70.
Mais le problème, quand même, là, c'est très bien de dire que c'est comme les Suisses et les Américains, et donc c'est normal, c'est que la participation au fil des années baisse.
Oui, c'est ça qui est inquiétant. Complètement.
Ouais. Philippe, par exemple, vous allez voter la fleur au fusil au mois de mai
Disons que je vais attendre les programmes.
Oui.
Je ne sais pas si je vais voter. Je ne suis pas pour le populisme, ça c'est sûr et certain. Maintenant, j'hésite. Est-ce que je ferai la liste, on va dire, Macron pour aller très rapidement? Est-ce que je ferai une liste écologiste? Je ne sais pas encore. Je verrai exactement les programmes. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas contre qu'il y ait un spot publicitaire, enfin un spot pour inciter les citoyens à voter. C'est pas ça mon propos, mais je me disais que il y avait deux sujets, si vous voulez, sur le spot. Un, c'était de dire, puisqu'on le fait 6 mois avant l'élection,
oui,
comme pour l'élection présidentielle, dire inscrivez-vous sur les listes électorales si vous l'avez déjà fait. Et après, si vous voulez, au mois de mars-avril, insister sur, puisqu'on serait à 2 mois de l'élection
sur les
différents programmes.
Alors,
ensuite, ce que je voulais dire...
Philippe, je voudrais bien qu'on s'arrête sur les programmes, si vous voulez, quelques instants justement pour nous éclairer un petit peu, parce que vous dites que vous n'avez pas encore fait votre choix, mais comme une grande majorité de Français, parce qu'elles ont du mal d'ailleurs à émerger les têtes de liste. Il y en a qu'un qui est parti pour l'instant très clairement en campagne, c'est Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Il y a des sensibilités qui se lancent plus facilement que d'autres aussi, Olivier Duhamel, c'est plus clair pour eux.
Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la crainte de se prendre une claque,
oui,
de faire un mauvais résultat. Il y a l'idée que c'est un peu difficile aujourd'hui, autrefois c'était facile, mais c'est moins accepté de se présenter d'être tête de liste et puis un mois ou 2 mois après de ficher le camp et de laisser tomber le Parlement européen. On est un peu plus exigeant qu'autrefois,
oui,
sur tout ça. Donc en effet, partout on ne sait pas qui va être. Et puis alors non, il y a un phénomène nouveau, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont refusé. Michel Barnier, semble-t-il, a refusé d'être tête de liste Les Républicains il y a,
oui,
quelques jours.
Oui.
Ségolène Royal, c'est un peu différent. Hein.
Alors Ségolène Royal, au grand jury, hein, chez nos confrères d'RTL, elle dit quand même « Je ne serai pas tête de liste socialiste, je suis une femme de gauche, mais je ne suis pas là pour venir à la rescousse des appareils,
voilà,
politiques. »
Mais je ne serai pas tête de liste socialiste, ça ne veut pas dire « Je ne serai pas candidate d'une liste soutenue par le Parti Socialiste.
Hein. » Ah oui,
donc ouais, n'allons pas trop vite en besogne pour dire qu'elle est sortie de la course, Ségolène Royal. Mais vous avez Mélenchon qui a refusé d'y aller lui-même et,
oui,
finalement c'est un binôme,
oui,
Charlotte Girard. Il y a Wauquiez qui refuse d'y aller lui-même,
oui,
en disant qu'il ne veut pas laisser tomber sa région. Il y a Marine Le Pen qui refuse. Donc c'est la première fois que, avant, les têtes de liste bousculaient. François Mitterrand a été candidat en tête de liste.
Comment vous expliquez ça? Il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, c'est ça?
Je pense d'une part que avec l'éclatement des listes et tout, on peut pas espérer faire 30% et sortir grand vainqueur comme Simone Veil et que ça vous donne une aura considérable. Et donc on se dit que c'est une élection d'une certaine manière ingagnable. Et d'autre part, l'idée que ils peuvent pas y aller faire un petit tour et revenir très vite en France, ce serait mal vu. Et ils ont pas envie de s'enfermer à Bruxelles. Ils préfèrent continuer leur boulot à Paris.
Eh bien voilà. Alors il va falloir être patient et trouver des candidats honnêtes et investis. Philippe, hein, merci de votre appel depuis Dijon. Je vais essayer de donner la parole à Mathieu si nous avons encore un petit peu le temps pour vous entendre, chers amis, avec Yves Bertoncini, Olivier Duhamel. Comment les partis français se préparent à ce scrutin capital le 26 mai en France? Eh bien, on fait encore le tour de la question quelques instants.
Europe 1.
Europe 1.
Les élections.
élections européennes auront lieu en mai prochain et un sondage révèle qu'un duo serait en tête, La République En Marche et le Rassemblement National, devant la liste des Républicains et plus nettement celle de la France Insoumise. Wendy Bouchard.
Avec Yves Consigny, spécialiste des questions européennes, président du mouvement européen France, et avec Olivier Duhamel, que pendant la pause j'interrogeais sur son mandat de député européen. 7 ans passés là-bas et vous en gardez une expérience assez forte, Olivier Duhamel. Il y avait du contenu, il y avait du fond, il y avait du débat et de l'action.
Oui, il y a de la confrontation entre gens très intelligents, de cultures différentes, d'histoires différentes. Le seul défaut, c'est que c'est un peu une bulle. C'est-à-dire qu'on est un peu coupé de la réalité parce que à force de faire des plans sur la comète entre intelligence et culture variée, on oublie parfois un petit peu le terrain et le fait que pour les gens, tout ce qu'on fait n'est pas forcément soit compréhensible, soit applicable et qu'il faudrait être un peu plus attentif à cela. Il y a vraiment des choses que l'Europe fait qu'elle ne devrait pas faire et des choses qu'elle ne fait pas qu'il serait temps qu'elle fasse.
Vous imaginez le climat si on oppose comme ça aujourd'hui les progressistes, les nationalistes, les anti- et les pro-européens, ça risque d'être trop électrique pour un climat serein au Parlement ?
Une des conditions, ce serait que ce ne soit pas seulement incarné par des personnages genre Salvini, Macron, mais qu'on mette du contenu derrière, c'est-à-dire qu'on explique, et voilà, quand je vous dis qu'il faut l'Europe des progressistes, ça veut dire que il faut faire un grand programme Erasmus de l'apprentissage, parce que Erasmus, c'est une chose formidable, c'est même peut-être avec l'euro la seule chose qui parle au peuple.
Oui. Ça veut dire que pour ça, il faut des coalitions, il faut des groupes.
Oui, mais si on dit, voilà, si on est progressiste, sauf ça, ou bien si on est progressiste, on aura une vraie politique européenne de l'immigration, ce qui veut dire ceci, ceci et cela. Par exemple, un exemple, j'en sais rien, mais Danny Cohn-Bendit, il dit, puisque les États ne sont pas d'accord sur accueillir, pas accueillir des migrants, oublions les États et que l'Europe aide les communes qui décident d'accueillir des migrants. Si on fait ça, mais c'est formidable, même en Pologne, même en Hongrie, il y a des communes.
Là, on enracine l'Europe.
Et on enracine l'Europe. Bon, si on met des choses comme ça dans la campagne, oui, ça vaut le coup et oui, les gens vont s'y intéresser plus.
Oui, alors quand même qu'un sondage IFOP révèle que 40% des Français, Yves Bertoncini, sont prêts à un pouvoir autoritaire en Europe pour réformer notamment les différents pays en profondeur.
Oui, mais ça, c'est l'expression d'un sentiment réel de perte de contrôle. Oui. Les Européens, les Occidentaux, on le voit aux États-Unis, ont le sentiment qu'ils perdent le contrôle de la situation. Et c'est vrai, nous avons dominé le monde pendant longtemps. Nous ne le dominons plus, nous n'en sommes plus tout à fait le centre. Et c'est ce qui a beaucoup changé par rapport aux années 20, 30, 40, 50. Il y a la Chine, le Brésil, les pays émergents, le terrorisme islamiste, plein d'acteurs qui nous inquiètent. Et donc, la question peut se résoudre avec la tentation autoritaire. Je crois qu'il faut qu'elle se résolve autrement, avec cette idée que l'union fait la force, qu'il faut que les Européens, bien sûr, unis dans la diversité, donc ça prend du temps, bien sûr que ça prend du temps de mettre d'accord les Hongrois, les Allemands, les Lituaniens et les Français. Le Parlement européen est un lieu pour essayer de favoriser ces convergences. Il y a aussi le Conseil européen, la Commission européenne, c'est du jeu institutionnel, c'est frustrant. Mais si il y avait un pouvoir autoritaire à Bruxelles qui décide de tout, on le trouverait illégitime.
Allez, je vais laisser 30 secondes à Mathieu pour s'exprimer. Il nous attend au standard depuis Paris. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour à tous. 30 secondes seulement.
Oui, bon, je suis navré.
Écoutez, depuis que j'écoute votre émission et d'autres, j'entends systématiquement les mots xénophobes, racistes et autres amabilités accolés systématiquement au terme de populistes ou nationalistes. D'ailleurs, moi, je parle plutôt de conservateurs ou d'identitaires.
Oui, oui.
Je trouve que c'est pas serein pour le débat. Moi, je me sens pas du tout ni xénophobe ni raciste. Et ça me fait de la peine de devoir me justifier. Moi, ma femme est étrangère. Je me suis battu des années à la préfecture pour qu'elle obtienne ses papiers. Et pourtant, je me sens proche des idées populistes parce que je trouve qu'il y a un problème avec l'immigration incontrôlée, avec la montée du communautarisme, avec plein de choses qui semblent être niées par le gouvernement actuel et qui sont de temps en temps avouées par ceux qui quittent le gouvernement.
Mais votre image de l'Europe,
Gérard Collomb.
Quelle est-elle, Mathieu ?
Pardon ?
Votre image de l'Europe, votre philosophie de l'Europe, quelle est-elle ?
Par rapport à mon activité, j'ai un petit exemple. J'ai une société de transport aujourd'hui.
Oui.
Et je suis confronté à la concurrence terrible.
Oui, c'est un vrai sujet.
De la mondialisation, non pas heureuse, comme disait Alain Juppé, mais catastrophique, de gens qui sous-louent leur licence de transport pour exploiter les migrants aujourd'hui et qui font qu'aujourd'hui, ils font travailler des gens pour 100-200 euros par mois qui ont besoin de cet argent-là, mais qui, eux, ne travaillent pas, ceux qui exploitent. Et parfois, ces migrants qui sont exploités exploitent d'autres migrants encore plus précaires qu'eux. Donc, je ne vois pas très bien, par exemple, l'avantage de la mondialisation quand j'étudie cet aspect-là du problème.
Olivier Duhamel va répondre concrètement à cet exemple concret pour pour terminer, parce que c'est ça aussi l'enjeu de l'Europe.
C'est pour ça qu'il faut... Alors, on a un petit peu progressé dans la correction de la directive travailleurs détachés, mais c'est comme ça qu'il faut, en effet, trouver... Ne pas inventer des règles européennes de liberté de circulation non régulées qui permettent des abus comme ça, et au contraire, mettre des règles européennes qui les empêchent, voilà.
Olivier Duhamel, Yves Bertoncini, on se retrouvera évidemment, messieurs, parce que c'est dans 7 mois ce scrutin-là, mais on avait envie de parler d'Europe, de faire déjà un tour un petit peu de l'état des lieux. Merci infiniment pour votre analyse. Yves Bertoncini, président du mouvement européen France, qui s'engage en faveur de la construction européenne, perspective fédérale. Olivier Duhamel, on vous retrouve samedi entre 10h et 11h. Et évidemment, il sera question de l'itinérance d'Emmanuel Macron, entre autres.
Hein. Oui, et même jeudi sur une série de podcasts Naissance de la 5e République qui commence jeudi.
Sur Europe 1.
Ouais,
formidable. Merci beaucoup Olivier. À tout de suite, chère Julie, puisqu'on va parler de Sacha Guitry avec un livre fameux publié par Christophe Barbier, Éternel et unique Guitry, à la une jusqu'à 11h.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe.